RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir chers auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le Kaleidoscope, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le Kaleidoscope de première partie de janvier au juin.
Le service mondial RRI La Voix de l'Indonésie présente le Kaleidoscope 2018. Nous présentons des événements importants pendant 2018. Nous commençons par les événements de janvier à juin 2018, présentés par Erna Gemiria.
Bonsoir à tous, nous nous rencontrons de nouveau dans le Kaleidoscope 2018. Le 1er janvier 2018, l'Indonésie gère officiellement du pétrole et du gaz du bloc Mahakam Kalimantan Est, l'Indonésie, par l'intermédiaire de la société anonyme Pertamina Persero, a officiellement repris le 1er janvier 2018 le bloc Mahakam Balikpapan Kalimantan Est des sociétés étrangères Total EP Indonésie, soit TEPI et INPEX. La zone de travail Mahakam à Kalimantan Est est gérée par TEPI et INPEX depuis 50 ans et après le 1er janvier 2018 est entrée dans une nouvelle phase gérée par Pertamina Hulu Mahakam qui fait partie de la société Pertamina. Le 2 janvier, le président Joko Widodo a inauguré le train de l'aéroport Soekarno-Hatta. Cette inauguration a eu lieu à la gare d'aéroport Terminal 3. Dans son discours, le président Joko Widodo a déclaré que l'un des modes de transport à Jakarta visait à réduire les embouteillages et qu'à l'avenir, le gouvernement tentera d'intégrer tous les modes de transport, qu'il s'agisse de busway, de Mass Rapid Transit, de LRT et de train de l'aéroport afin de réduire l'utilisation de véhicules privés. Le train de l'aéroport dispose de 10 circuits composés de 6 voitures et peut transporter 33 000 passagers par jour. Le 5 janvier, le gouverneur de la Banque d'Indonésie à l'époque, Agus Martowardoyo, et le gouverneur de la Banque centrale chinoise, Zhu Xiaochuan, ont signé un accord sur la création du bureau de représentation de la Banque d'Indonésie à Beijing, en Chine. Agus Martowardoyo a déclaré que l'accord était conforme au rôle de plus en plus important de la Chine dans l'économie mondiale et la région, y compris pour l'Indonésie. Agus espère que l'existence du bureau de représentation de la Banque d'Indonésie à Beijing permettra d'optimiser davantage les relations économiques et financières entre les deux pays et de mieux faire comprendre l'évolution et les politiques économiques et financière en Chine et leurs implications pour l'Indonésie. Le 12 janvier, 10% et 51% des parts de PT Freeport Indonesia, PTFI, ont été cédées au gouvernement indonésien pour les gouvernements de Papouasie et de la région Mimika. La ministre des Finances Sri Mulyani et le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales Ignatius Jonan, le gouverneur de Papouasie Lucas NMB, le régent de Mimika Eltinus Omaleng et le président-directeur de la société anonyme Inalum Budi Gunadi Sadikin ont signé l'accord au bureau du ministère des Finances à Jakarta. Dans son allocution, la ministre des Finances Sri Mulyani a déclaré que cet accord constituait une étape stratégique, un progrès significatif dans le contexte du désinvestissement des actions de Freeport.
Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika.
Les gouvernements provinciaux de Papouasie et de la région Mimika détiendront conjointement 10% des actions de la société anonyme Freeport Indonesia après le désinvestissement. Selon Sri Mulyani, des 10% incluent pour satisfaire aux droits coutumiers ou aux territoires et communautés autochtones affectés par l'exploration de Freeport. L'Indonésie, qui détient 51% des actions de Freeport, devrait augmenter les recettes de l'État, accélérer l'aval du secteur minier, accroître les possibilités d'emploi et favoriser le développement de la région. Le 18 janvier, deux avions de chasse F-16, subvention du gouvernement des États-Unis, sont arrivés à la base aérienne Iswahyudi Magetan, Javaes. L'avion de chasse est la dernière expédition d'un total de 24 unités d'avions de chasse F-16 en provenance des États-Unis. Selon l'observateur militaire de l'Institut indonésien des sciences, Mohamed Nur Hasim, l'assistance du chasseur F-16 des États-Unis faisait partie de la politique étrangère des États-Unis qui considérait toujours la région asiatique comme importante, y compris l'Indonésie.
Salah satu pertimbangan dibukanya kembali hubungan kerjasama militer antara Amerika Serikat dengan Indonesia.
L'un des aspects de la réouverture de la coopération militaire entre les États-Unis et l'Indonésie, outre que l'Indonésie a changé d'un point de vue politique, je pense qu'il y a des changements assez significatifs. Il y a un processus de consolidation de la démocratie. Il y a une amélioration des critères des droits de l'homme, etc. Il y a aussi des opportunités pour changer les constellations politiques mondiales. Je pense que les intérêts américains en Asie et dans l'ASEAN sont également l'un des facteurs qui ont motivé la poursuite de programmes de subvention F-16. Mohamed Nur Hasim a ensuite expliqué que la continuation de l'assistance de l'avion de combat américain F-16 en Indonésie est également basée sur des considérations politiques à long terme dans la région. Selon lui, les États-Unis ont calculé la constellation politique antérieure et le rôle de l'Indonésie dans le domaine de la sécurité au niveau asiatique et d'ASEAN, y compris les troubles politiques en mer de Chine méridionale et la croissance de la puissance chinoise en tant que nouvelle puissance économique et nouvelle force militaire après l'effondrement de l'Union soviétique. Le 19 janvier, deux citoyens indonésiens nommés Lautu et Lahadi, les pêcheurs de Wakatobi ont été libérés par leurs ravisseurs. Ils ont été kidnappés par le groupe Abu Sayyaf dans les eaux de Kertam, Sabah, Malaisie, le 5 novembre 2016, puis amenés dans les eaux de Sulu, aux Philippines Sud. Le directeur de la protection des citoyens indonésiens et de l'assistance judiciaire indonésienne du ministère indonésien des Affaires étrangères, Lalu Muhammad Iqbal, a veillé à ce que la libération des deux pêcheurs se déroule sans aucune rançon. Le 26 janvier, l'Indonésie a remporté le conflit sur le biodiesel avec l'Union européenne. Le résultat final de la décision du groupe spécial de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, a remporté 6 procès en Indonésie contre l'Union européenne. L'Union européenne avait déjà imposé des droits anti-dumping sur les produits biodiesel indonésiens depuis 2013, avec une marge de dumping de près de 9 à 23%. Ainsi, les exportations de biodiesel de l'Indonésie vers l'Union européenne ont diminué de plus de 42% depuis 2013. Le 29 janvier, le président Joko Widodo et la première dame Iriana Joko Widodo sont arrivés à l'aéroport international Hamid Karyadi à Kaboul, en Afghanistan. La visite d'État du président Joko Widodo en Afghanistan était la deuxième visite du président de la République d'Indonésie après la visite du président Sukarno il y a 57 ans, en 1961. Deux jours auparavant, un attentat suicide à la bombe perpétré par des groupes de militants talibans avait tué 95 personnes dans la région de Kaboul, la capitale afghane. Mais l'incident n'a pas défait la visite du président Joko Widodo en Afghanistan. Le 1er février, l'Indonésie a officiellement signé l'accord de paix hôte de l'Institut de l'ASEAN pour la paix et la réconciliation à Jakarta. La signature étant témoignée par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a été réalisée par le directeur général de la coopération de l'ASEAN au ministère indonésien des Affaires étrangères, José Tavares et Rezlan Ishar, de l'Institut de l'ASEAN pour la paix et la réconciliation. À cette occasion, la ministre Retno Marsudi a expliqué que son pays considérait l'Institut de l'ASEAN pour la paix et la réconciliation comme une institution importante pour soutenir l'ASEAN et relever les défis de la paix, de la stabilité et de la sécurité régionale. Cette institution renforce également le leadership de l'Indonésie au sein de l'ASEAN en tant que moteur du processus de paix et du règlement des conflits dans la région. Le 5 février, le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a officiellement ouvert la Conférence internationale sur les droits de l'homme à Jakarta. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a assisté à la conférence. Dans son allocution, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a rappelé l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Déclaration de Vienne en tant qu'instrument qui a donné naissance au principe fondamentaux des droits de l'homme. Cette conférence a été spécialement organisée pour commémorer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les 25 ans de la Déclaration de Vienne, ainsi que son programme d'action.
Through this Jakarta International Conversation on Human Rights, Indonesia is proud to take part.
À travers cette conversation internationale sur les droits de l'homme à Jakarta, l'Indonésie est fière de prendre part à la commémoration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du 25e anniversaire de la Déclaration de Vienne et son projet d'action. Les deux instruments énoncent des principes clés pour la délibération sur les droits de l'homme, à savoir l'universalité, l'objectivité, la non-sélectivité, la non-politisation et la coopération. 70 ans plus tard, ce principe est essentiel dans le monde d'aujourd'hui, où les conflits, le crime organisé et les catastrophes naturelles entraînent souvent de grands problèmes humanitaires. Le 11 février, la ministre des Finances de la République d'Indonésie, Sri Mulyani Indrawati, a reçu le prix du meilleur ministre du monde lors du sommet du gouvernement mondial tenu à Dubaï, Émirats Arabes Unis. Le prix a été remis par le leader de Dubaï, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ce prix du meilleur ministre est un prix mondial décerné chaque année à un ministre de tous les pays du monde. Il commence à être attribué en 2016. Le processus de sélection et de détermination du lauréat est mené par une institution indépendante, Ernst & Young, et organisé par le World Government Summit World. Le sommet des gouvernements est une réunion annuelle tenue à Dubaï et réunit tous les dirigeants gouvernementaux du monde entier dans un forum de dialogue mondial sur le processus gouvernemental et les politiques publiques et leurs relations avec la technologie, l'innovation et d'autres sujets. L'objectif est d'améliorer la vie de 7 milliards de personnes dans le monde. Le 20 février, le ministère indonésien des Affaires étrangères a lancé le site Web Rogatory Online Monitoring 2018, soit Rome 2018, afin de mettre à jour des sites web similaires qui existaient déjà. Le lancement de ce site web vise à améliorer la qualité des services publics fournis dans le cadre de la fourniture d'une assistance technique juridique en matière civile. Ce site web fournit toutes les informations concernant les lettres rogatoriales et la soumission des documents judiciaires dans les derniers problèmes civils. Retno Marsudi a révélé qu'il s'agissait du traitement de la lettre rogatoire et de la demande de remise des documents judiciaires des tribunaux de pays étrangers aux tribunaux indonésiens et des tribunaux indonésiens aux tribunaux étrangers de la Cour suprême.
Dan tadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa pada hari ini juga sekaligus saya meluncurkan.
Et comme vous le savez, j'ai également lancé aujourd'hui le site web du ROM, le site Web Rogatory Online Monitor 2018. Ce site web contient des informations sur les réglementations, les formats et les frais de pays tiers. Le caractère est informatif, qui est donc très nécessaire pour les citoyens indonésiens et concerne également le rogatoire et la soumission des documents judiciaires dans les affaires civiles. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a ajouté qu'un renforcement du système juridique et des services consulaires était nécessaire pour que le gouvernement puisse garantir les droits légaux des citoyens indonésiens confrontés à des poursuites civiles. Le 2 mars, l'entreprise d'État Pertamina Société Anonyme a officiellement ouvert un bureau de représentation de lubrifiant Pertamina Société Anonyme à Sydney, en Australie. Le directeur général de Pertamina Lubrifiant Société Anonyme, Afandi Anwar, a déclaré que l'ouverture de ce bureau de représentation renforçait encore la commercialisation des produits indonésiens en Australie, qui avait toujours été défendu par le consulat d'Indonésie à Melbourne comme une forme concrète de diplomatie économique. Les possibilités d'exportation s'ouvriront davantage et amélioreront la balance commerciale de l'Indonésie. Ce succès n'est pas seulement dans l'intérêt du gouvernement indonésien, car il génère des avantages mutuels pour l'entreprise. Le 3 mars, les étudiants indonésiens ont remporté une médaille d'or au concours mondial de mathématiques pour la région de l'Asie de l'Est, NEAMC. En outre, ils ont également remporté une médaille d'argent et 3 médailles de bronze au concours qui s'est tenu à Beijing en Chine du 1er au 3 mars 2018. La délégation indonésienne était composée de 12 étudiants du lycée international Bunda Mulia à Jakarta, âgés de 14 à 17 ans. Ils ont été divisés en 4 équipes. NEAMC est une compétition qualificative pour le championnat mondial de mathématiques qui se tient chaque année. Le NEAMC 2018 à Beijing a réuni 162 étudiants de Hong Kong, de Chine, du Vietnam et d'Indonésie. Le 5 mars, l'entreprise Data Kimia Pharma Persero TBK, société anonyme, a étendu ses activités au Moyen-Orient en acquérant 60% des actions de Dawa Medical Limited Company, une filiale du groupe saoudien Marei bin Mahfouz. La signature du pacte d'actionnaires a été marquée par la création de la société commune Kimia Pharma Dawa par le directeur de Kimia Pharma, Honesty Bashir, et le président-directeur général du groupe Marei bin Mahfouz, Mahfouz bin Marei bin Mahfouz. Honesty a expliqué que l'expansion commerciale de Kimia Pharma à l'étranger, en particulier en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient et en Afrique, faisait partie de la stratégie de développement des activités et des marchés de la société. Cette expansion d'affaires vise également à soutenir le programme du gouvernement indonésien visant à répondre aux besoins en matière de santé des pèlerins indonésiens et des pèlerins d'Omra qui augmentent chaque année, ainsi que des citoyens indonésiens travaillant en Arabie Saoudite. Le 16 mars, l'ambassadeur de la République d'Indonésie en Malaisie, Rusti Kirana, à Miri, au Sarawak, Malaisie, a inauguré 17 nouveaux centres d'apprentissage communautaire CLC dans la région Sarawak. Ce centre d'apprentissage est destiné aux enfants de travailleurs migrants indonésiens, en particulier à ceux qui travaillent dans le secteur des plantations réparties dans diverses régions du Sarawak. Lors de sa conférence de presse dans l'un des CLC de la plantation de palmiers à Will de Sashu, Yuan Group Amiri, l'ambassadeur Rusti Kirana a déclaré qu'outre la construction d'un nouveau CLC à Sarawak, le gouvernement indonésien a également le plan de construire des écoles professionnelles dans le prolongement de l'éducation de base.
Kalau di Sarawak itu targetnya 50 dan sekarang
au Sarawak l'objectif est 50 et maintenant il y en a 12. L'objectif est de construire 17 dont les 19 premiers doivent avoir été réalisés. Aujourd'hui, nous en avons inauguré 17 dont il y a 36. Nous avons pour objectif 5 ans au juin pour le Sarawak. Pour Sabah, nous allons construire des écoles professionnelles à partir d'écoles élémentaires. Des collèges, nous irons dans des écoles professionnelles. Ce qui a été dit auparavant par la gastronomie, l'hospitalité et la mécanique, nous espérons qu'à la fin de cette aide, nous ferons un chantier révolutionnaire. Les fonds existent déjà. Le 18 mars, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a prononcé un discours lors du débat public au Conseil de sécurité des Nations Unies, affirmant que les forces de maintien de la paix et de sécurité des Nations Unies ne pouvaient plus travailler comme d'habitude pour faire face aux défis sur le terrain d'aujourd'hui. La force de sécurité des Nations Unies doit être bien formée, bien équipée et soutenue par des ressources adéquates. La déclaration a été transmise par Retno Marsudi au débat public du Conseil de sécurité des Nations Unies intitulé Action collective pour améliorer les opérations de maintien de la paix des Nations Unies en présence de 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et de tous les participants au débat au quartier général de l'ONU à New York, mercredi 26 mars, heure locale. Le thème du débat public était motivé par le nombre croissant de membres des forces de sécurité des Nations Unies victimes de diverses attaques et de menaces à la sécurité de la mission des Nations Unies. Pour protéger les citoyens indonésiens à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie utilise le développement des technologies de l'information et des communications en lançant l'application Safe Travel. Cette application basée sur Android et iOS a été officiellement lancée par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, à Jakarta, le samedi 14 avril 2018. Après son lancement, la ministre Retno Marsudi a déclaré le lancement d'application Safe Travel faisait partie de la politique étrangère de l'Indonésie visant à promouvoir la protection aux citoyens indonésiens. Nous venons de lancer ensemble l'application Safe Travel. Cette application est accessible sur plusieurs plateformes car avant janvier 2017, nous l'avons lancé, mais sous forme de carte. Nous pouvons maintenant y accéder de différentes manières. Pourquoi Safe Travel? La réponse la plus courte dans le cadre de la protection. Parce que la protection des citoyens indonésiens, comme l'a toujours souligné le président de la République d'Indonésie, constitue une priorité pour la politique étrangère de l'Indonésie. Le 19 avril, le président Joko Widodo a inauguré l'exposition de véhicules en Tunisia International Motor Show, IIMS 2018, soit Salon International de l'Automobile de l'Indonésie, à G-Expo Kemayoran, Jakarta. Dans son discours, le président Joko Widodo a déclaré que le thème de l'IIMS 2018 qui soutient et s'engage dans les produits de voitures électriques reflète l'industrie automobile indonésienne répondant au développement de l'industrie mondiale. Le président a estimé que la révolution industrielle 4.0 pouvait amener l'industrie automobile à passer au développement de technologies et à offrir une opportunité à l'industrie automobile indonésienne. Au total, 15 ans de marques de véhicules à 4 roues ont participé à l'exposition qui s'est tenue du 19 au 29 avril 2015. Le 25 avril, le vice-président Yusuf Kalla a inauguré l'exposition Inacraft à Jakarta Convention Center. Dans son discours, Yusuf Kalla a apprécié l'exposition internationale d'artisanat ou Inacraft 2018 qui s'est déroulée pour la 20e fois jusqu'au 29 avril 2018. Dans cette exposition, Inacraft a choisi Sumatra Nord comme icône principale de l'exposition et porter le thème « La hauteur de Sumatra Nord » accompagner le thème central d'Inacraft « Coloring the World ». Selon le vice-président, en devenant la principale icône de l'exposition, Sumatra Nord peut procurer des avantages en matière d'emploi, des avantages économiques ainsi que de la fierté.
Merci, selamat kepada Provinsi Sumatera Utara.
Félicitations à la province Sumatra Nord qui, cette fois, est devenue une sorte d'hôte ou une région qui a donné la priorité à cette exposition. Je suis sûr que cet effort peut nous apporter plus d'avantages en termes d'emploi, d'avantages économiques et de fierté. Le 1er mai, le président Joko Widodo a ouvert le forum de consultation des ulémas et les savants musulmans du monde au Palais Bogor, à Java West. Une centaine d'ulémas d'Indonésie, du Yémen, d'Égypte, d'Iran, du Maroc, d'Italie, des États-Unis et d'autres pays ont participé au forum. Dans son discours, le président Joko Widodo a réitéré l'engagement de l'Indonésie à soutenir la naissance de l'axe islamique modéré du monde.
Posisi Indonesia sangat jelas. Kami mendorong dan sangat berkomitmen bagi lahirnya.
La position de l'Indonésie est très claire. Nous encourageons et sommes très attachés à la naissance de l'axe mondial de Wasatia islamique. Nous croyons qu'avec Wasatia Islam, nous voulons montrer au monde que l'islam est une religion qui est une bénédiction pour l'univers entier. Le 7 mai, le président Joko Widodo a salué l'arrivée du premier ministre chinois Li Keqiang au palais présidentiel Bogor, Jawa West. Le président et le premier ministre ont tenu une réunion bilatérale sur la coopération dans plusieurs secteurs et en même temps, ils ont planté ensemble l'arbre Bryo Balanops Lanceolata. Le premier ministre Li a également visité le secrétariat de l'ASEAN à Jakarta pour célébrer le 15e anniversaire de la relation de partenariat stratégique entre la Chine et l'ASEAN. En outre, le premier ministre Li a également assisté au sommet commercial l'Indonésie-Chine. Le 11 mai, au Palais Bogor, Jawa West, le président Joko Widodo a officiellement ouvert une réunion trilatérale des oulémas de l'Afghanistan, de l'Indonésie et du Pakistan sur la stabilité de la paix en Afghanistan. Plusieurs 45 oulémas des trois pays ont assisté à une série de réunions à huis clos. Dans ses remarques, le chef de l'État a souligné que l'Indonésie avait fermement encouragé la paix et la stabilité en Afghanistan. Il espère que cette réunion donnera des résultats concrets pour la paix en Afghanistan.
Melalui suara ulama, khususnya para ulama dari Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia.
Grâce aux voix des ulémas, en particulier ceux d'Afghanistan, du Pakistan et de l'Indonésie, ces trois pays souhaiteraient renforcer l'esprit de Kuwa en faveur de la paix en Afghanistan. C'est indéniable, c'est une tâche difficile et une tâche noble pour les ulémas. Pour cette raison, j'ai appelé une nouvelle fois à l'intention de l'intelligence d'Allah subhanahu wa ta'ala. En semant les graines de la paix et en évitant la violence parmi ses serviteurs. Avec une intention sincère, la réunion trilatérale des ulémas constituera, inshallah, une contribution concrète à la paix en Afghanistan. La réunion des ulémas trilatéraux Indonésie, Afghanistan, Pakistan a accepté de lire la déclaration de paix de Bogor qui soutient la réalisation de la paix en Afghanistan. La réunion a été fermée par le vice-président Yusuf Kalla. Il a déclaré que la lecture de la déclaration de paix de Bogor était la première étape d'un nouveau processus visant à instaurer la paix. Le 11 mai, le ministre des Affaires étrangères du Brésil, Aloysio Nunes Pereira, s'est rendu en Indonésie. Lors de sa rencontre avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, les deux ministres ont signé trois documents d'approbation, à savoir un accord d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de service, l'échange de notes concernant les exemptions de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires et les accords de coopération technique. Le 21 mai, le président Joko Widodo a inauguré le chemin de fer de l'aéroport international Minangkabau dans la ville Padang, à Sumatra Ouest. Dans ses remarques, le président a souligné le niveau de congestion de la circulation qui constitue souvent un défi dans plusieurs grandes villes. Le train de l'aéroport à Padang est le troisième train de l'aéroport à être inauguré par le président après l'inauguration du même train à Medan et à Jakarta. Selon Joko Widodo, les trains de l'aéroport dans la ville Padang ont été construits avec des subventions du gouvernement de sorte que les frais facturés à la communauté étaient très bon marché.
Kita ingin mengurangi sebanyak-banyaknya penggunaan mobil pribadi di jalanan.
Nous voulons réduire au maximum l'utilisation de voitures privées dans les rues. Nous voulons que les gens utilisent les transports publics, les autobus et les trains. Bientôt à Jakarta, il y a les MRT et les LRT. Sans lui, dans aucune ville du monde entier, il sera définitivement coincé. À Sumatra Ouest, en particulier dans la ville Padang, à Padang Pariaman, nous voulons la même chose. De l'aéroport Minangkabau à la ville, il n'est pas nécessaire d'utiliser une voiture privée, mais un moyen de transport de masse, à savoir les trains d'aéroport. Le 30 mai, le président Joko Widodo a reçu la visite du premier ministre indien, Narendra Modi au Palais Merdeka à Jakarta. L'arrivée du Premier ministre Narendra Modi a été la première visite officielle en Indonésie suite à la visite du président Jokowi en Inde en décembre 2016 et à la participation au sommet commémoratif ASEAN-Inde le janvier 2018. Le ministre de la Coordination des Affaires économiques, Darmin Nasution, a annoncé les résultats de sa réunion avec le Premier ministre Narendra Modi au Palais Merdeka à Jakarta, a pour objectif d'améliorer les relations de coopération avec l'Indonésie. Plusieurs points de coopération ont été convenus avec l'Inde, notamment dans les domaines de l'économie, de la défense, de la politique et de la socio-culture. Dans le secteur de la défense, la marine et l'ASEAN suivront un entraînement conjoint dans le détroit de Malacca. Dans le domaine économique, on a discuté sur les produits d'huile de palme et des produits pharmaceutiques, ainsi que des importations de viande en provenance d'Inde. Le 25 juin, le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a eu une réunion bilatérale avec le ministre japonais des Affaires étrangères. La question de la péninsule coréenne est l'un des sujets abordés lors de la 6e réunion du dialogue stratégique bilatéral entre le ministre Retno Marsudi et son homologue japonais, Taro Kono, à Jakarta. Lors de la réunion, les deux ministres des Affaires étrangères ont convenu de renforcer la résolution des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies contre la Corée du Nord. Lors de sa conférence de presse, le ministre Kono a déclaré que la ministre Retno était également convenue que la Corée du Nord devait complètement dénucléariser et désarmer des armes de destruction massive et les missiles balistiques.
Regarding North Korea, we reaffirmed our commitment to the strict implementation.
En ce qui concerne la Corée du Nord, nous avons réaffirmé notre engagement à la mise en œuvre stricte des résolutions de l'ONU sur la sécurité et à réclamer auprès de la Corée du Nord les démantèlements complets et irréversibles de toutes les armes de destruction massive et de tous les missiles balistiques. Le 26 juin, le président Joko Widodo a reçu une visite d'État du président du Timor-Leste, Francisco Guterres Lu Olo, au palais présidentiel Bogor, Jawa West. Cette visite était la première visite à l'étranger du président Guterres après son accession à la présidence l'an dernier. Dans ses remarques, le président Joko Widodo a qualifié cette visite d'État comme relation étroite entre l'Indonésie et le Timor-Leste. Au cours de la réunion, les deux chefs d'État ont convenu d'améliorer les relations bilatérales. Les discussions portent entre autres sur la coopération en matière de commerce et de l'investissement. Lors de la réunion, le président Joko Widodo a exprimé l'engagement de l'Indonésie à continuer d'être un partenaire de confiance du développement économique au Timor-Leste.
Indonesia merupakan mitra utama perdagangan Timor-Leste dan sebagaimana
l'Indonésie est le principal partenaire du commerce du Timor-Leste et 9 sociétés d'État et environ 400 sociétés indonésiennes s'opèrent au Timor-Leste. L'investissement indonésien au Timor-Leste a atteint plus de 595 millions de dollars américains. Par conséquent, nous avons convenu d'entamer des négociations et de parvenir à un accord sur des accords de promotion et de protection des investissements et des accords visant à éviter la double imposition. Je suis sûr que le gouvernement du président Lu Olo continuera à fournir des garanties juridiques et une certitude aux investissements indonésiens. Le même jour, le 28 juin, le premier ministre camerounais Mahathir Mohamad a effectué une visite d'État de deux jours en Indonésie. L'arrivée du premier ministre Mahathir à Jakarta a été saluée par le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, et la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, à l'aéroport Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Lors de la réunion bilatérale, le 29 juin, le président Jokowi et le premier ministre Mahathir ont examiné plusieurs questions importantes concernant les deux pays, notamment les efforts visant à renforcer la coopération économique dans les domaines du commerce et de l'investissement. Lors d'une déclaration de presse conjointe avec le premier ministre Mahathir, le président Joko Widodo a déclaré qu'il discutait également de la coopération frontalière. Joko Widodo a également confié la protection des travailleurs indonésiens en Malaisie à Mahathir Mohamad. Dans le même temps, le premier ministre Mahathir espère que l'amitié et la coopération entre l'Indonésie et la Malaisie pourront être renforcées du fait de ses nombreux avantages, tant sur le plan politique et économique que sur le plan des relations entre les nations.
Merci d'écouter le kaléidoscope de janvier à juin 2018. Demain, nous revenons avec des événements de juillet à décembre 2018 présentés par TV Shakila. À bientôt!
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/FRENCH.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, nous présenterons la cascade de Landung et vous pouvez écouter notre programme en streaming. Aujourd'hui, nous présenterons la cascade de Landung située dans la province de Java West. Kuningan est l'une des régions dans la province de Java West. Cette région possède des potentiels touristiques, sa beauté naturelle, sa cascade et les eaux chaudes ont fait de cette région une place visitée par beaucoup de touristes domestiques et étrangers. L'un des potentiels touristiques de Kuningan est la cascade ou Curug. Ici, il y a des belles cascades, entre autres la cascade de Landung. Elle est située dans le village de Cisantana, le district de Cigugur, la région de Kuningan, environ 5 jusqu'à 6 heures de Jakarta et 30 minutes du centre-ville de Kuningan. Curug Landung vient du mot cur, qui signifie cahi ou les eaux, et rugu, qui signifie couler, et landung, qui signifie long ou bien haute, dont la cascade Landung signifie la haute cascade. Elle est l'une des plus hautes cascades dans la ville de Kuningan. Sa hauteur atteint 30 mètres. Les eaux de Curug Landung viennent de Curug Putri, situé dans les terrains de camping de Palutungan, environ 1 km. Si du cascade provient de l'une des sources d'eau chaude du mont de Chiremai, à savoir la source d'eau chaude de Kopi Chilaja. En arrivant à cette zone de cascade, vous devez payer un billet d'entrée de 10 000 rupiah et les frais de stationnement de 5 000 rupiah par véhicule. Du parking à la cascade, vous devez descendre les escaliers en béton jusqu'à 200 mètres. Vous serez surprise par sa beauté. La cascade est haute et propre. Pour sentir la fraîcheur des eaux, vous pouvez nager ou simplement jouer des eaux dans la piscine. Par la communauté locale, des chutes d'eau est censée avoir une efficacité dans le traitement de la migraine, amnésie et épilepsie. En plus de jouir de la fraîcheur des eaux à Churuklandu, vous pouvez prendre un selfie ou autoportrait. Et dans cette zone touristique, il y a beaucoup de spots photo contemporains tels que Wing Sky ou Balançoire, tapisserie volante, fleurs de soleil et nid des oiseaux, y compris tour de bambou, ciel de bambou et maison de hobbit. Les installations dans la cascade de Landon sont complètes, entre autres toilettes, mosquées, restaurants, gazebo, la zone de parking et la pose du centre d'information. Bon, chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs, voici l'Indonésie en couleur et en pour titre. L'Université Erlangga a remporté une médaille d'argent au concours du Salon international des inventions de Séoul. Trois étudiants de la Faculté des sciences infirmières et un étudiant de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université Erlangga, UNAIR, ont remporté une médaille d'argent au concours du Salon international des inventions de Séoul, SWIF à Séoul, Corée du Sud, au début de décembre 2018. SWIF est un concours organisé par l'Association de la promotion d'invention de la Corée, KIPA. L'équipe de Nair a remporté le championnat à travers des produits innovants appelés Pinelica ou Pineapple, pile comme soin des cheveux. Pinelica est l'utilisation de déchets de peau d'ananas comme gel qui peut être utilisé comme masque et crème pour assoudre les pellicules. Selon un membre de l'équipe, Teguh, l'idée initiale de ce masque anti-pelliculaire de la peau d'ananas Pinelica provient des nombreuses peaux d'ananas qui sont jetées pour qu'elles s'accumulent et deviennent des déchets. En fait, la peau d'ananas contient de nombreux ingrédients bénéfiques pour la santé des cheveux, en particulier pour lutter contre les pellicules. L'équipe a innové pour fabriquer un gel à base d'extrait de peau d'ananas pouvant être utilisé de manière multifonctionnelle. Pinelica peut être utilisé comme masque et crème capillaire pour traiter les pellicules, qui est certainement plus pratique, économique et sûr et respectueux de l'environnement. Spinelli Cup créé par l'équipe de Nair a réussi à vaincre 606 découvertes provenant de 33 pays. Les pays concurrents sont entre autres l'Arabie Saoudite, Taïwan, la Thaïlande, la Corée, la Malaisie, Macao et la Croatie. Les participants venaient de divers horizons allant des élèves de l'école secondaire et du lycée, des étudiants, des professeurs aux chercheurs. L'Indonésie, 70 équipes ont participé à cet événement. Après avoir remporté la médaille d'argent à Séoul, l'équipe du Nair a le projet de développer Spinelli Cup. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5 Jakarta 10110 ou PO Box 1157 Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.